Chapitre 12. Une fabrique. À son zénith, le soleil de l'Amadicia tapait sur le crâne de Perrine, tandis que Marcheur se dirigeait vers Almizar, une ville située à une quarantaine de lieues au sud-ouest d'Amador. Pressé d'arriver, Perrine maintenait sa monture au trot. Dans toutes les directions, des fermes s'étendaient à l'infini. Des bâtiments classiques au toit de chaume, avec de la fumée montant de la cheminée et des volailles fouillant le sol de la cour. Dans les pâturages clos, des moutons à grosses queues et des bovins blancs tachetés de noir broutaient paisiblement, tandis que les fermiers et leurs jeunes fils travaillaient aux champs. À première vue, c'était le jour de la lessive, si on se fiait aux grandes bassines mises à chauffer sur un feu derrière les maisons. À certains endroits, les fermières et leurs filles pendaient déjà des vêtements et des draps, le long des cordes asséchées. Dans le coin, on remarquait très peu de végétation sauvage. Quelques rares bosquets, la plupart mis en coupe pour fournir du bois de chauffage. Perrine sonda mentalement le secteur en quête de loups et il n'en trouva pas. Rien d'étonnant. Ses frères à quatre pattes restaient très loin de la civilisation et des hommes. La brise se faisant piquante, le jeune homme resserra sur son torse les pans de son manteau, en laine et d'un marron très ordinaire, malgré sa volonté d'en imposer. Le seul manteau chic qu'il possédait, doublé de fourrure, était trop chaud pour la saison. Dessous, sa veste verte en soie brodée de fils d'argent devrait faire l'affaire. Avec la fibule qui tenait son manteau, deux têtes de loup en or et argent, il en jetterait assez. Le bijou était un cadeau de Feil, qu'il portait pour la première fois parce qu'il le trouvait trop clinquant. Le matin, il l'avait récupéré au fond d'un coffre, histoire de compenser la simplicité de son manteau. Dans ce paysage, il n'y avait rien de surprenant, sinon les caravanes de Zingari stationnées autour de la ville. De sa position, il en voyait cinq. Selon Elias, dès que deux se rencontraient, on était bon pour une sacrée nouba. À partir de trois, les réjouissances duraient plusieurs jours. Mais on en arrivait rarement là, sauf en été, lors de la fête du soleil, où des points de rencontre étaient prévus un peu partout. Perrine faillit regretter de ne pas avoir amené Aram. Tant pis pour le risque que Massema en apprenne trop. Si le Zingaro avait passé un peu de temps avec les siens, il aurait peut-être décidé de renoncer à son arme. La seule solution à un problème épineux que Perrine pouvait envisager, même si elle avait peu de chances de succès. Aram aimait son arme, trop sans doute, mais ce n'était pas une raison pour se séparer de lui. S'il s'était détourné du paradigme de la feuille, c'était à cause de Perrine. Du coup, le jeune homme et son épée se trouvaient sous sa responsabilité. Seule la lumière savait ce qu'il adviendrait d'Aram s'il tombait entre les griffes de Massema.
« Tu observes les Zingari et tu plisses le front, Seigneur, »
dit la générale Kirgan. Après avoir passé du temps avec cette femme, Perrine était un peu moins gênée par sa façon d'avaler les mots, typique des Seanchaniens.
« Chez vous, ces gens posent des problèmes. Au Seanchan, nous n'avons rien de comparable, mais ici, j'ai seulement entendu dire que les gens ont tendance à les chasser de chez eux. Si j'ai bien compris, ce sont de fichus voleurs. »
Comme Mishima, Kirgan portait aujourd'hui un manteau bleu bordé de rouge et d'or, et une veste rouge au poignet bleu et au revers ourlé de jaune. Pour indiquer son grade, trois petites barrettes en forme de plume, celles qui décoraient les casques dans l'armée séanchanienne, ornaient le côté gauche de sa veste. Sur celle de Mishima, il n'y en avait que deux. Les 12 soldats qui chevauchaient derrière leur chef étaient en armure rayée et casque peint. Hautement entraînés, ils brandissaient leurs lances selon un angle très précis. Derrière, les partisans de Feil, également au nombre de 12, paradaient dans leurs vestes de théâtre aux manches de satin rayé ou dans leur tenue du Kairien, reconnaissable aux rayures multicolores qui barraient leur poitrine. Les couleurs de leur maison, mais aussi un signe de puissance. Même s'ils trimbalaient une épée, ces jeunes gens semblaient moins dangereux que les militaires, et ils en avaient conscience. Si Perrine se fiait au relent d'agacement qu'ils captaient dans la brise, car il était peu vraisemblable qu'ils proviennent des Seanchaniens. Eux, ils attendaient, aux aguets comme des loups, certains d'avoir très bientôt besoin de leurs dents. Bientôt, oui, mais pas encore.
« Général, » dit Néald, « il vole une poule de temps en temps. »
Avec un petit rire, il lissa sa moustache cirée.
« Mais, fichu voleur, non, je ne dirais pas ça. »
Néald avait savouré la stupéfaction des Seanchaniens devant le portail qui les avait amenés ici, et il restait de très bonne humeur, ne manquant pas une occasion de rouler des mécaniques. Difficile de se souvenir que, sans sa veste noire, il aurait encore trimé dans la ferme de son père, peut-être en nourrissant le projet d'épouser une solide fermière dans un an ou deux.
« Les vrais voleurs sont courageux, et les Zingari n'ont rien dans le ventre. »
Recroquevillé dans son manteau noir, Balwer ponctua sa saillie d'une grimace, ou peut-être d'un sourire. Parfois, Il était difficile de faire la différence chez ce petit homme sec et malingre, sauf quand Perrine pouvait sentir son odeur. Néald et Balwer escortaient le jeune seigneur, au même titre que la Souldame aux cheveux gris et la Damane aux yeux froids accompagnaient Kirgan et Mishima, une façon d'équilibrer les délégations, semblait-il. Pour les Seanchaniens, quand un Adam les reliait, une Souldame et une Damane comptaient pour une seule personne. Perrine se serait contentée de venir avec le seul Néald. Néald et Balwer lui allaient aussi. Mais Talanvor avait absolument raison au sujet des Seanchaniens et du protocole. Durant les 3 jours de pourparlers, on s'était affronté sur la question du plan. Fallait-il choisir celui de Perrine, ou plutôt l'intégrer à celui de Tai Li? Mais on avait surtout perdu du temps à discutailler sur le nombre de personnes que chaque partie emmènerait. Il fallait une parfaite égalité. Et la Seanchanienne prétendait partir avec 100 soldats et 2 duos Souldam Daman. Une question d'honneur, selon elle. Très surprise par les ambitions plus modestes de Perrine, Tai Li avait fini par capituler, quand le jeune seigneur lui avait fait remarquer que tous les fanatiques de Fail, hommes comme femmes, étaient des nobles. Déjà agacé qu'on choisisse le plan de son allié, parce qu'elle n'avait rien de mieux à proposer, Tai Li n'avait pas vraiment apprécié de disposer d'une escorte moins huppée. Des gens bizarres, ces Seanchaniens. En fait, rien n'était simple. Dans le cadre d'une alliance temporaire et des plus fragiles, les deux chefs avaient parfaitement conscience de devoir marcher sur des œufs.
« En 2 occasions, » dit Perrine. « Les Zingari nous ont accueillis sans rien demander en retour, mes amis et moi. Mais mon plus grand souvenir à leur sujet, c'est le jour où les Trollocs encerclaient Chandemonde. Sur la grande place, les Tuatahan attendaient avec des enfants attachés dans le dos. Les nôtres, plus ceux des leurs, très rares, qui avaient échappé au massacre. Ils ne se seraient pas battus, car ce n'est pas dans leur philosophie. Mais en cas de défaite de mes gars, ils étaient prêts à filer avec les petits pour les mettre en sécurité. Emmener nos gosses, il faut le comprendre, aurait encore diminué leurs chances de s'en tirer. Mais ils s'étaient portés volontaires. »
Néald se racla la gorge et détourna le regard, les joues un peu rouges. Malgré tout ce qu'il avait vu et fait, il était encore très jeune, à peine 17 ans. Cette fois, Balwer sourit, sans l'ombre d'un doute.
« Ta vie pourrait être une légende, » dit Tai Li,
visiblement avide d'en apprendre davantage.
« Je préférerais qu'elle soit très ordinaire, »
répliqua Perrine. Les légendes, c'était trop agité pour un homme en quête de paix.
« Un jour, » dit Mishima, « j'aimerais voir un de ces Trollocs dont on me parle sans arrêt. »
Dans l'odeur du Seanchanien, Perrine identifia de l'amusement. Pourtant, l'officier porta la main à son épée, peut-être sans s'en apercevoir.
« Je doute que tu apprécierais, »
fit Perrine.
« Ça arrivera tôt ou tard, mais tu ne seras pas content du tout. »
Son amusement oublié, le Seanchanien finit par acquiescer. À force, il commençait à croire que les Trollocs et les Myrdraal n'étaient pas des légendes. Et s'il en doutait encore un peu, l'avenir très proche le détromperait. Quand les cavaliers entrèrent dans Almizar et prirent la direction du nord, Balwer s'éclipsa et Médoré l'accompagna. Presque aussi noir que Tai Li, mais avec des yeux bleus, cette grande théarienne portait un pantalon et une veste d'homme, avec des manches bouffantes rayées de rouge, et une épée battait son flanc. Alors que Balwer se recroquevillait sur son cheval, elle se tenait bien droite sur sa selle, ainsi qu'il convenait pour la fille d'un haut seigneur et la meneuse des adorateurs de Fail. Pourtant, elle se plaça derrière Balwer, pas à ses côtés. Bizarrement, les partisans de Fail semblaient avoir accepté d'être placés sous l'autorité du petit secrétaire. Du coup, ils étaient bien moins enquiquinants qu'avant. En un sens, ils en devenaient presque utiles, ce que Perrine n'aurait pas cru possible. Sans protester sur le départ des 2 cavaliers, Tai Li les regarda pensivement.
« La dame se montre très courtoise, » fit-elle. « Allez rendre visite à la servante d'une amie. »
L'histoire improvisée par Balwer. Il prétendait connaître une habitante d'Almizar, et Médoré faisait mine de vouloir à tout prix la voir, si elle était encore vivante.
« Médoré est une gentille personne, »
dit Perrine.
« Chez nous, on est doux avec les serviteurs. »
Tai Li lui lança un regard noir. Juste ce qu'il fallait pour lui rappeler de ne pas la prendre pour une idiote. S'il en avait su davantage sur les us et coutumes du Seanchan, Balwer et lui auraient pu accoucher d'une meilleure fable. Mais le petit secrétaire était tout excité, à sa façon, stricte et austère, à l'idée d'en apprendre plus long sur ce qui se passait en Amadicia depuis l'invasion des Seanchaniens. Perrine, lui, s'en contrefichait. À ses yeux, seul Fail comptait. Plus tard, il se soucierait du reste. Au nord de la ville, les murets de pierre qui séparaient 7 ou 8 champs avaient été retirés pour former une vaste étendue de terre qui semblait avoir été passée à la herse ou balayée par un râteau géant. 2 personnes encapuchonnées couchées sur son dos, une étrange créature courait sur cette espèce de piste, ses pattes maigres jurant avec son corps immense. À dire vrai, étrange était un euphémisme. Sa peau parcheminée grisâtre, la bête était plus grande qu'un cheval, même si on ne comptait pas son cou aux allures reptiliennes et sa queue encore plus longue et d'une bizarre raideur. En courant, elle battait des ailes, celles d'une chauve-souris, mais en version géante. Perrine avait déjà vu des monstres de ce genre, mais de loin, et toujours quand ils volaient. D'après Tylee, c'était des rakens. Très lentement, la créature décolla du sol, frôla la cime des arbres d'un bosquet, puis prit de l'altitude. Levant les yeux, Perrine suivit un instant son vol maladroit. Voyager sur un raken devait être une expérience inoubliable. Honteux et furieux de se laisser distraire, Perrine chassa cette pensée parasite. Tylee fit ralentir sa monture et sonda la piste, sourcils froncés. Tout au bout, des hommes nourrissaient quatre autres rakens. Le museau plongé dans les paniers qui leur tendaient, les créatures s'empiffraient. Non sans un frisson, Perrine se demanda ce qu'elle pouvait bien manger.
« Il devrait y avoir plus de rakens, » dit la Seanchanienne. « S'il n'y en a pas d'autres,
nous prendrons ceux qui sont là et nous continuerons, »
coupa Perrine.
« Nous connaissons déjà la position des Shaido.
J'aime savoir si des ennuis n'avancent pas dans mon dos, »
répliqua Tylee avant de talonner son cheval. Dans une ferme à l'évidence réquisitionnée par les Seanchaniens, une dizaine de soldats jouaient au dé sur des tables disposées sans ordre apparent dans la cour. D'autres personnes allaient et venaient sur le périmètre. Pourtant, Perrine ne vit pas de chevaux, à part l'attelage d'un chariot en cours de déchargement par deux civils aux grossiers vêtements de laine. Perrine supposa que les autres gens étaient des militaires. Pour moitié, il s'agissait de femmes, très grandes mais très minces, et personne ne portait une épée. Mais les vestes bleues ne trompaient pas, tout comme les couteaux réglementaires attachés sur la face extérieure de leurs bottes serrées. Uniforme, n'était-il pas synonyme de soldat ?
Matt se sentirait à l'aise avec ces gens,
pensa Perrine, en voyant les joueurs maudire les coups de malchance et faire un triomphe au lancer réussi. Des couleurs tourbillonnant dans sa tête, il aperçut brièvement son ami d'enfance à la tête d'une colonne de cavaliers et de chevaux de bât dans les bois. Très brièvement, car il chassa cette image sans même se demander ce que Matt fichait dans cette forêt, ni en compagnie de qui il la traversait. Seul Fail comptait. Le matin, il avait fait le 51e nœud à la lanière de cuir, qu'il gardait dans sa poche. 51 jours que sa femme était captive. Enfin, il espérait qu'elle était toujours prisonnière. Parce que ça signifiait qu'elle vivait encore. Une condition incontournable pour qu'il la libère. Perrine posa la main sur la tête du marteau qu'il portait à la ceinture et la serra très fort. Puis il s'avisa que Tylee et Mishima le regardaient. L'une pensivement et l'autre agressivement, la main sur la poignée de son épée. Une alliance fragile, oui, avec très peu de confiance de chaque côté.
« Un instant, » dit Tylee. « J'ai cru que tu envisageais de tuer les rakens. Tu as ma parole, nous libérerons ta femme. Et si c'est impossible, nous la vengerons. »
Perrine prit une inspiration saccadée, puis il relâcha la pression sur son arme. Fail était vivante. Il fallait qu'elle le soit. Alize avait assuré qu'elle était sous sa protection. Mais alors qu'elle portait aussi le blanc des Gaishine, comment cette Aes Sedai aurait-elle pu vraiment défendre Fail ?«
Finissons-en et partons, »
lâcha Perrine.
Nous perdons du temps.
Combien d'autres nœuds devrait-il faire à sa lanière? Avec l'aide de la lumière, plus tant que ça. Mettant pied à terre, il tendit les rênes de marcheur à Carlon Belcelona, un théarien imberbe au long nez et au menton presque inexistant. Comme s'il se demandait où avait filé sa barbe, le pauvre Carlon consacrait une partie de son temps à tripoter son absence de menton. Le reste, il le passait à tâter ses cheveux, pour essayer de comprendre pourquoi il formait désormais une longue queue de cheval. À part ça, il ne semblait pas décidé à cesser de singer les aïels. La folie commune à tous les adorateurs de Fail. Au moins, Balwer leur avait donné des ordres, et ils obéissaient. Après avoir confié leur monture à deux camarades, tous se dirigeaient vers les tables, certains sortant des pièces de leur poche et d'autres proposant des gourdes de vin, dont les soldats ne voulurent pas, très bizarrement. En revanche, ils se révélèrent prêts à accepter tout nouveau joueur aux poches bien remplies. Après avoir jeté un coup d'œil aux jeunes gens, Perrine retira ses gants et les glissa dans sa ceinture. Puis il écarta les pans de son manteau, histoire qu'on voie sa belle veste, et entra dans la ferme derrière les deux Seanchaniens. Quand il en ressortirait, les partisans de Fail, donc les siens aussi en toute logique, auraient tiré les vers du nez des soldats amateurs de jeux d'argent. Une des nombreuses leçons apprises de Balwer. L'information était le nerf de la guerre, et on ne pouvait jamais savoir quel renseignement finirait par valoir de l'or. Pour le moment, cependant, la seule information qui intéressait Perrine ne pourrait pas venir d'ici. La salle commune de la ferme était pleine de tables. Assis face à la porte d'entrée, des fonctionnaires déchiffraient des documents ou en rédigeaient. À part la toux d'un type, on entendait seulement le crissement des plumes sur le parchemin. Ici, les hommes étaient en veste et pantalons sombres, et les femmes en robe, mais tout aussi terne. Certains de ses fonctionnaires arboraient une broche en argent ou en cuivre et en forme de plume d'oie. Décidément, les Séanchaniens avaient des uniformes pour tous les métiers. Au fond de la pièce, un type aux joues rondes, deux plumes d'argent sur la poitrine, se leva et s'inclina humblement, le geste faisant ressortir son ventre. Tai Li avança, suivi par Perrine. L'homme ne se redressa pas avant qu'elle l'ait rejoint.
« Tai Li Kirgan, »
se présenta-t-elle sèchement.
« Je veux parler à votre chef. »
« À vos ordres, général de bannière, »
susurra le type. Après une courbette, il fila vers la porte de derrière. Plus jeune que Perrine, le garçon qui toussait aurait pu venir de deux rivières, à voir son allure. Sa toux se transformant en quinte, il se couvrit la bouche d'une main et se racla la gorge. Mais rien n'y fit, et la toux revint. Mishima le foudroya du regard.
« S'il est malade, cet homme ne devrait pas être ici. Et s'il est contagieux ? Ces derniers temps, d'étranges affections hantent le monde. Un gaillard vigoureux le matin peut être mort le soir sans qu'on sache pourquoi. J'ai entendu parler d'une femme devenue folle en une heure. Tous ceux qui la touchaient perdaient aussi la raison. En 3 jours, il n'y a plus que des cadavres dans son village. Seuls ceux qui se sont enfuis ont survécu. »
Mishima conjura le sort en formant un cercle avec son pouce et son index, les 3 autres doigts repliés.
« Tu es assez malin pour ne pas croire à ces rumeurs, » dit Tai Li, « et pour ne pas les répéter. »
Probablement sans s'en apercevoir, elle fit le même geste que son subordonné. Le fonctionnaire aux deux broches revint, tenant la porte à un homme aux cheveux gris. Sur son visage allongé, un bandeau noir cachait ce qui avait dû être un jour son œil droit. Sur son front, une balafre prenait naissance, disparaissait sous le cache, puis se remontrait sur sa joue. D'aussi petite taille que les soldats dans la cour, il portait une veste bleu foncé ornée de 2 barrettes, et un couteau était accroché à chacune de ses bottes.
« Blazik Falun, général de bannière !»
se présenta-t-il. Il s'inclina, tandis que le fonctionnaire regagnait hâtivement sa table.
« Que puis-je faire pour toi ?»«
Capitaine Falun, nous devrions parler en... »
Tai Li se tut, car le jeune homme qui toussait venait de se lever en renversant son siège. Les mains sur le ventre, il se plia en 2 et vomit un fluide noir qui, en touchant le sol, devint une multitude de cafards qui se dispersèrent dans toutes les directions. Un homme jura, déchirant un silence de mort. Le jeune malade regarda les insectes et secoua la tête, comme s'il refusait d'en croire ses yeux. Puis il ouvrit la bouche pour parler, mais il se plia à nouveau en 2 et vomit un autre flot de fluide noir qui se transforma lui aussi en cafard. La peau de son visage se craquela et d'autres insectes en sortirent. Un cri de femme donna le signal de la panique. Fous de terreur, les fonctionnaires se levèrent, renversèrent les tables et se bousculèrent dans leur frénésie d'échapper aux ignobles créatures. Le pauvre garçon, lui, continuait à vomir. Tombant d'abord à genoux, il bascula en avant, les membres pris de spasmes, et vomit un autre flot d'insectes noirs. De seconde en seconde, il semblait devenir plus plat, comme s'il se dégonflait. Bientôt, il cessa de bouger, mais des cafards se déversèrent encore de sa bouche pour grouiller sur le sol. Après ce qui sembla une éternité, en fait, tout ça n'avait duré qu'une minute ou 2, le flot d'insectes se tarit. Du jeune homme, il ne restait plus qu'une dépouille aplatie, flottant dans ses vêtements, une outre à 20 vies en quelque sorte. Dans la salle, la panique battait son plein. Perchés sur les tables pas encore renversées, les fonctionnaires, femmes et hommes confondus, lâchaient des chapelets de jurons, priaient ou alternaient les 2. Mais toujours en beuglant comme des veaux. Une bonne moitié était sortie pour fuir les cafards qui grouillaient partout. Dans la pièce, la terreur était palpable.
« J'ai entendu une rumeur, »
croassa Falun. Le front lustré de sueur, il empestait la peur. Pas la panique, mais une bonne vieille trouille.
« À l'est d'ici, le même phénomène se serait produit. Mais il s'agissait de 1000 pattes, oui, des petits 1000 pattes noires. »
Des insectes fondant sur lui, le capitaine recula, grommela un juron et fit le même étrange geste que Tai Li et Mishima. Perrine écrasa des cafards sous sa botte. Le bruit mou lui retourna l'estomac, mais il s'en ficha, car seul comptait le sort de Fail.
« Ce sont des blattes, rien de plus !»
lâcha-t-il.
« On en trouve partout où il y a du vieux bois !»
Falun sursauta, leva les yeux, et sursauta de nouveau quand il croisa le regard jaune de Perrine. Puis il avisa le marteau glissé à sa ceinture et tourna la tête vers Tai Li.
« Ces cafards ne viennent pas du bois. Ils sont l'œuvre de l'aveugleur d'âme. »«
C'est possible, »
répondit Perrine, très calme. Un des innombrables noms du ténébreux, probablement.
et ça ne fait aucune différence. »
Il déplaça son pied, révélant 7 ou 8 insectes écrabouillés.
« On peut les tuer. Je me contrefiche de fichus cafards que j'écrase sans peine sous ma botte. »
« Nous devons vraiment parler en privé, capitaine, »
dit Tylee. Dans son odeur, la peur était présente, mais parfaitement contrôlée. Mishima, lui, avait refait le geste bizarre, et il restait bloqué dans cette position. Cela dit, lui aussi dominait très bien sa peur. Inspiré par ces exemples, Falun se ressaisit. Encore sonné, il se maîtrisait à présent, en évitant toujours de regarder les cafards, cela dit.
« À tes ordres, général de bannière. Atal, descends de cette table et fais balayer ces immondices hors d'ici. Assure-toi aussi que Métan sera préparé convenablement en vue des rituels. Si salement qu'il soit mort, c'était au service de l'Empire. »
Le fonctionnaire grassouillet inclina la tête et sauta de son perchoir. Il voulut saluer une nouvelle fois le capitaine, mais celui-ci se détourna sans lui accorder un regard.
« Tu veux bien me suivre, général de bannière ?»
À l'origine, le bureau de Falun devait être une chambre. Aujourd'hui, on y trouvait une petite table de travail lestée de piles de documents et une plus grande, sur tréteaux, où étaient déroulées des cartes d'état-major tenues au coin par des encriers, des pierres et de petites figurines de cuivre. Des étagères sur le mur du fond semblaient contenir une multitude d'autres cartes. Pas de feu dans la cheminée. Falun désigna des chaises bancales à ses invités et leur proposa du vin. Quand Tylee préféra rester debout et ne rien boire, il parut déçu. Peut-être parce qu'un verre lui aurait calmé les nerfs, mais il ne pouvait pas boire seul.
« Capitaine, j'ai 6 Raken à remplacer, et il me faut 18 Morat Raken, plus une entière compagnie de rampants. La mienne est en Amadicia, en route vers l'ouest, impossible à localiser. »
Falun fit la grimace.
« Général, si tu as perdu des Raken, tu ne peux pas ignorer que les réserves sont au plus bas à cause de... »
Un coup d'œil à Perrine le dissuada de continuer dans cette voie.
« Tu me demandes les 3/4 de mon cheptel. Ne peux-tu pas réduire tes ambitions? 1 ou 2 Raken, ce serait soutenable. »«
4, »
trancha Tylee.
« Et 12 pilotes. C'est ma dernière offre. D'après ce qu'on dit, cette région est aussi paisible que Séandar. Pourtant, je te laisse 4 bêtes. »
« À tes ordres, »
capitula Falun.
« Mais puis-je voir un ordre écrit, s'il te plaît? Ici, tout doit être documenté. Depuis que je n'ai plus le droit de voler, je passe mon temps dans la paperasse. »«
Seigneur Perrine ?»
demanda Tylee. Le jeune homme aux yeux jaunes sortit l'ordre signé par Surot en personne. Pendant sa lecture, Falun arqua les sourcils au point qu'ils se touchèrent presque. Du bout d'un index, il tâta le cachet de cire, mais n'émit pas plus de doute que Tylee. Les Séanchaniens, à l'évidence, semblaient habitués aux documents de ce genre. Cela dit, le capitaine parut soulagé de le rendre à Perrine, et, d'instinct, il s'essuya les mains sur sa veste. Habitué, peut-être, mais pas dans la décontraction. Dans ses yeux, Perrine lut la question qui avait passé dans ceux de Tylee. Qui était-il pour détenir un document pareil?
« Capitaine, »
dit Tylee.
« Si tu en as une, il me faut une carte de l'Altara. Je pourrais faire 100, mais ce serait mieux avec. » C'est la partie nord-ouest du pays qui m'intéresse.
La lumière brille sur toi, général de bannière,
fit le capitaine en se penchant pour prendre un rouleau de parchemin sur l'étagère la plus basse.
J'ai exactement ce qu'il te faut. Par erreur, cette carte se trouvait parmi celles de l'Amadicia qu'on m'a remise. Jusqu'à ce que tu en parles, je l'avais oubliée. Un grand coup de chance pour toi.
Perrine secoua très légèrement la tête. Un hasard sans rapport avec sa nature de taverne. Rand lui-même n'était pas capable de faire advenir ces petits miracles. Les couleurs se formant dans sa tête, il les chassa sans la moindre pitié. Dès que la carte fut déroulée et lestée de poids aux 4 coins, Tylee l'étudia le temps dont elle avait besoin pour trouver ses repères. Couvrant la table, la carte montrait exactement ce qu'elle voulait, avec de petites parties de l'Amadicia et du Gealdan. Tout était indiqué, et on trouvait le nom des cours d'eau, des villes et des villages. Perrine vit que c'était une carte bien supérieure à celle dont on disposait en moyenne. L'influence du Taveren? Non, c'était impossible.
« Les Raken trouveront mes soldats ici, »
dit Tylee en indiquant un point précis.
« Départ immédiat. 1 pilote par Raken et pas d'objet personnel. On volera léger et aussi vite que possible. Retour demain avant la nuit.
Les autres Moratraken voyageront avec les rampants. Moi, j'espère partir d'ici à quelques heures. Que tout le monde se prépare et se rassemble.
Des charrettes, dit Perrine.
Néald ne pourrait pas ouvrir un portail assez large pour un chariot.
Tout ce qu'ils emporteront devrait être dans des charrettes et non des chariots.
Falun sembla ne pas en croire ses oreilles.
Des charrettes, donc,
fit Aili.
À toi de t'en occuper, capitaine.
Dans l'odeur de l'officier, Perrine crut reconnaître une furieuse envie de poser des questions. Mais en bon séhanchanien, Falun s'en abstint.
À tes ordres, général de bannière.
Lorsque Taili et Perrine repassèrent dans la salle commune, le désordre y régnait toujours, mais d'une nature différente. Courant dans tous les sens, les fonctionnaires finissaient de se débarrasser des cafards avec de grands balais. Quelques femmes avaient les larmes aux yeux, et certains hommes se seraient bien laissés aller à les imiter. Dans l'air, l'odeur de la peur flottait toujours. Le cadavre n'était plus là, mais les fonctionnaires, nota Perrine, faisaient de grands détours pour ne pas marcher là où il était tombé. Dans le même ordre d'idées, ils tentaient de ne pas écraser de cafards, ce qui les contraignait à se hisser souvent sur la pointe des pieds. Quand le jeune seigneur gagna la sortie dans un concert de craquements de carapaces, ils s'arrêtèrent pour le suivre des yeux. Dehors, on était à peine un peu plus calme que dedans. Les soldats de Taili se tenaient toujours près de leur monture, et Néald surjouait la nonchalance en allant jusqu'à bâiller à s'en décrocher la mâchoire. En revanche, la Souldame tentait d'apaiser sa damane, et les soldats en veste bleue, bien plus nombreux qu'auparavant, conversaient nerveusement entre eux. Tenant leur monture par la bride, les fanatiques de Fail vinrent entourer Perrine. Excités, ils parlèrent tous en même temps.
« C'est vrai, seigneur ?»
demanda Kamaï, rongé par l'inquiétude. Barmanès, son frère, intervint.
« Quatre hommes ont sorti on ne sait trop quoi enveloppés dans une couverture, en évitant de baisser les yeux dessus. »
Les jeunes gens cédèrent à la panique.
« Ils ont dit qu'un type a vomi des cafards, et que d'autres blattes sont sortis de son corps. Regardez, ils poussent des insectes dehors avec leur balai. On va tous se faire tuer !»
Que la lumière brûle mon âme, le ténébreux se libère!
Un échantillon des remarques les moins absurdes, c'était dire.
Silence!
Ordonna Perrine. Miracle des miracles, les jeunes gens obéirent. En général, ils ne manquaient jamais de rappeler qu'ils étaient au service de Fail, pas à celui de Perrine. Là, ils attendaient qu'il apaise leur angoisse.
Un homme a bien vomi des blattes avant de mourir. Mais ce sont des insectes tout ce qu'il y a d'ordinaire. Ils piquent quand on s'assoit dessus, mais rien de plus. Le ténébreux a sûrement quelque chose à voir avec cette affaire, mais ça n'est pas lié à notre mission, qui consiste à libérer Fail. En d'autres termes, on s'en fiche. Alors calmez-vous et occupez-vous de nos affaires.
Bizarrement, ce sermon porta ses fruits. Les jeunes gens s'empourprèrent et la honte chassa en partie leurs angoisses. Alors qu'ils remontaient en selle, leur véritable nature refit surface. Un premier se lança dans une tirade sur les exploits qu'il accomplirait pour secourir Fail et tous les autres l'imitèrent. Cela dit, il y avait pas mal d'autodérision dans ces vantardises, puisque chaque nouvelle allégation fantaisiste faisait rire ceux qui ne l'avaient pas proférée. Un concours d'idiotie, mais délibéré. Alors qu'il prenait les rênes que lui tendait Carlone, Perrine s'avisa que Taili le dévisageait. Que voyait-elle en lui? Que cherchait-elle à comprendre?
« Pourquoi tous les Raken sont-ils absents ?»
demanda le jeune seigneur.
« Nous devons être arrivés en deuxième ou troisième position, »
répondit la Séhanchanienne en se hissant en selle.
« Je dois encore me procurer des Adam. » Aussi longtemps que j'ai pu, j'ai continué à croire que j'avais une chance de régler ça seul. Mais il faut regarder les choses en face. Ton message de Sourotte va devoir montrer sa valeur à présent. S'il échoue, il sera inutile de partir en quête d'Adam.
Une alliance fragile, où la confiance brillait par son absence.
Pourquoi échouerait-il? Ici, il a fait son office.
Falun est un soldat, seigneur. À présent, nous allons devoir parler avec un dignitaire impérial.
Dans la bouche de Taili, le mot « dignitaire » sonnait comme une injure. Quand elle s'éloigna, Perrine enfourcha Marcheur et la suivit. Visiblement prospère, Almizar était une grande ville, dotée de 6 hautes tours de garde mais pas de fortifications. Selon Elias, la loi, en Amadicia, proscrivait les murs d'enceinte, les réservant à la seule Amador. Un règlement qui favorisait les fils de la lumière et qu'il défendait bec et ongle, tout comme le roi en exercice, quel qu'il fût. Aelron étant mort, Balwer apprendra sûrement qui l'avait remplacé. Des deux côtés des rues pavées, des bâtiments souvent très hauts se pressaient les uns contre les autres, les toits d'ardoise alternant avec ceux en chaume. Comme dans toutes les cités, une foule bigarrée sillonnait la cité, au milieu des chariots et des charrettes. Un mélange de marchands ambulants, de femmes en bonnet de laine si enfoncé qu'il leur cachait presque le visage, d'hommes en redingotes bouffies d'importance, d'apprentis en gilet ou tablier, vaquant à l'une ou l'autre corvée. Ici, il y avait presque autant de militaires que de civils. des soldats des deux sexes en uniforme séanchanien aux vives couleurs. La plupart portaient un couteau et une dague, mais certains trimbalaient une épée. Marchant par deux, l'œil perpétuellement aux aguets, ces militaires avaient aussi un gourdin à la ceinture. Une sorte de garde municipale? Peut-être. Mais bien nombreuse pour une ville de cette taille. Où qu'il regardât, Perrine avait toujours au moins quatre soldats dans son champ de vision. Deux hommes et une femme sortirent d'une auberge de plusieurs niveaux et enfourchèrent les chevaux que leur avaient amenés des palefreniers. Sans la veste serrée qui saillait au niveau de ses seins, Perrine n'aurait pas reconnu une femme. Les cheveux courts, vêtus comme un homme, la militaire portait une épée presque aussi grande qu'elle. Quant à son visage, en matière de dureté, il n'avait rien à envier à celui de ses compagnons. En regardant le trio s'éloigner, Mishima grogna.
« Des quêteurs du corps » marmonna-t-il. « Là-dessus, je parierais mes yeux. Ces âmes, soi-disant d'élite, sèment la zizanie partout où elles passent. Les quêteurs se battent comme des chiffonniers et fourrent leur nez dans ce qui ne les regarde pas. Il paraît que le corps de Valère a été retrouvé. Qu'en penses-tu, Seigneur ?»«
J'ai entendu la même chose, » confirma Perrine. « Mais il y a des rumeurs sur tout, et elles circulent à la vitesse de l'éclair. »
Aucun de ses compagnons ne lui jeta un regard. Dans une foule si dense, capter leur odeur serait une mission impossible. Pourtant, bizarrement, Perrine aurait juré qu'ils étaient suspendus à ses lèvres, comme dans l'attente d'une révélation. Pensait-il sérieusement qu'il était lié au corps? En passant, Perrine savait où se trouvait l'artefact. Moiraine l'avait rapporté à la Tour Blanche. Mais il n'avait aucune intention de le dire. La confiance ne fonctionnait pas dans un seul sens. Indifférents les uns aux autres, les citadins n'accordaient aucune attention non plus aux soldats, pas plus qu'à Tylee et à son escorte en armure. Avec Perrine, c'était une autre affaire, dès qu'il voyait ses yeux jaunes. Lorsque quelqu'un les remarquait, le jeune seigneur s'en apercevait aussitôt. Le sursaut d'une femme, la bouche ouverte de surprise. L'air stupéfié d'un homme soudain pétrifié. Un type était allé jusqu'à s'emmêler les pinceaux et tomber à genoux. Le regard d'abord rivé sur Perrine, il s'était ensuite relevé pour fuir à toutes jambes, comme si l'homme aux yeux jaunes risquait de le poursuivre.
« Je suppose qu'il n'avait jamais vu des yeux comme les miens, »
marmonna Perrine.
« Dans ton pays, c'est fréquent ?»
demanda Tylee.
« Pas vraiment, non. Mais je vous présenterai un homme qui a les mêmes yeux que moi. »
Mishima et Tylee se dévisagèrent. Soudain inquiet, Perrine espéra qu'il n'y avait rien dans les prophéties au sujet de deux hommes aux yeux jaunes. Des couleurs tourbillonnèrent dans sa tête, mais il les en bannit. Tylee savait exactement où elle allait, une écurie, tout à fait dans le sud de la ville. Mais quand elle mit pied à terre au milieu de la cour, aucun palefrenier ne se montra. L'enclos, ceint d'un mur de pierre qui jouxtait l'écurie, était vide. Après avoir confié ses rênes à un des soldats, Tylee riva les yeux sur la double porte dont un seul battant était ouvert. Dans son odeur, Perrine sentit qu'elle s'armait de courage.
« Suis-moi, Seigneur, »
dit-elle enfin.
« Et ne t'avise pas de parler à tort et à travers. Ça pourrait être dangereux. Si tu as quelque chose à dire, adresse-toi à moi. Qu'il soit clair que c'est à moi que tu parles. »
Un discours inquiétant, pourtant, Perrine acquiesça. En même temps, il commença à imaginer un plan permettant de voler la fourche racine, si les choses tournaient mal. La nuit, cet endroit était-il gardé? Pour agir, il devrait le savoir, mais Balwer connaissait sans doute la réponse. Étrangement, ce petit homme glanait les informations de ce genre, sans même avoir à les chercher. Tandis que Perrine emboîtait le pas à Tylee, Mishima resta dehors avec les chevaux, et il ne semblait pas s'en plaindre. Comment fallait-il interpréter ça? Le fallait-il seulement? Fichu séanchanien. En quelques jours, il avait poussé à voir partout un sens caché aux choses. À l'évidence, l'endroit était une ancienne écurie, mais tout avait changé. Alors que le sol aurait satisfait la fermière la plus à cheval sur la propreté, on ne voyait pas l'ombre d'un équidé, et une odeur de menthe occultait les relents de paille et de crottin que seul un odorat comme celui d'Elias ou de Perrine aurait pu détecter. Les stalles, en tout cas les premières, étaient pleines de caisses. Au-delà, on les avait démolies, sauf celles qui soutenaient le grenier. À leur place, des femmes et des hommes assis à des tables travaillaient avec des mortiers, des pilons ou des passoires, tandis que d'autres surveillaient des sortes de poêles plates sur trépieds, placés au-dessus de braises ardentes. Avec des pinces, ils remuaient ce qui semblait être des racines. En manche de chemise, un jeune type mince fourra un gros sac dans une des caisses, puis s'inclina devant Tylee, aussi humblement que le fonctionnaire dans la ferme. Et il ne se releva pas avant qu'elle ait parlé.
« Je suis la générale de Bannière Kirgan. J'aimerais parler aux responsables de cet établissement. »
Un ton très différent qu'avec le fonctionnaire. Pas péremptoire du tout.
« À vos ordres !»
répondit le jeune homme avec, semblait-il, un accent de la Madicia. En tout cas, si c'était un séanchanien, il parlait à la bonne vitesse et sans avaler ses mots. Après une autre révérence, il courut vers un endroit où six stalles avaient été dotées d'un mur de devant et tapa à une porte. Plein de déférence, il attendit qu'on lui ait répondu pour entrer. Quand il se remontra, il fila vers le fond du bâtiment, sans un regard pour Tai Li et Perrine. Après quelques minutes, le jeune seigneur voulut parler, mais sa compagne secoua la tête et fit la grimace. Il se mura donc dans son silence et attendit. Un quart d'heure s'écoula. De plus en plus énervée, Perrine s'étonna du calme souverain de la Seanchanienne. Une femme en robe jaune consentit enfin à sortir de ce qui devait être un bureau. Là, elle étudia ce qui se passait au fond du bâtiment, sans paraître remarquer la présence des visiteurs. La moitié du crâne rasé, l'inconnu portait le reste de ses cheveux en une longue tresse qui pendait sur son épaule. Hochant la tête de satisfaction, elle se retourna et avança enfin vers Perrine et Tai Li, sans hâte néanmoins. Sur sa poitrine, dans un ovale bleu, on remarquait trois mains brodées de fils d'or. Tai Li s'inclina aussi humblement que Falun un peu plus tôt. Se souvenant des consignes, Perrine l'imita. La femme hocha à peine la tête. Dans son odeur, la fierté dominait.
« Tu veux me parler, général de Bagnères ?»
Une voix lisse, un peu à son image passe-partout, et pas accueillante du tout. Celle d'une femme occupée qu'on dérangeait et qui avait pleine conscience de son importance.
« Oui, honorable, »
fit Tai Li, très respectueuse. Un rien d'irritation s'ajouta à son odeur, mais ça ne dura pas, et rien ne se vit sur son visage.
« Pouvez-vous me dire combien de fourches racines préparées vous avez en réserve ?»
« Une étrange question, »
fit la femme, comme si elle envisageait de ne pas y répondre. Mais elle en décida autrement.
« Au comptage de ce matin, je disposais de 4873 livres et 9 onces. Un stock remarquable, si j'ose le dire moi-même, considérant le volume récent de mes ventes et la difficulté de trouver la plante dans la nature sans envoyer mon personnel à l'autre bout du monde. »
Si impossible que ça parût, l'odeur de fierté devint plus forte.
J'ai résolu ce problème en incitant les fermiers du coin à cultiver de la fourche racine. Avant l'été, je devrais trouver de plus grands locaux pour ma fabrique. De vous à moi, je ne serais pas surprise qu'on me récompense en m'offrant un nouveau nom. Un honneur que je n'accepterais peut-être pas.
Avec un sourire inexpressif, elle toucha le panneau ovale de sa robe, presque une caresse en réalité.
Honorable, la lumière t'accordera sans doute ses faveurs.
Souffla Tai Li.
Seigneur, veux-tu bien montrer ton précieux document à notre hôtesse ?
Cela dit avec une révérence encore plus prononcée que devant l'honorable. La femme en jaune fronça les sourcils. Tendant une main pour prendre la feuille, elle se pétrifia et sonda le regard du jeune seigneur. Enfin, elle avait remarqué ses yeux. S'ébrouant, elle lut sans marquer de surprise, puis replia la feuille et se tapota la main gauche avec.
« Tu navigues dans les hautes sphères, dirait-on, général de Bagnères, et avec un bien étrange compagnon. Que veux-tu ou que veut-il de moi ?»«
De la fourche racine, honorable, toute votre réserve. Chargée sur des charrettes aussi vite que possible, avec l'obligation de fournir les véhicules et les conducteurs, je le crains. »«
Impossible !»
s'écria l'honorable, plus hautaine que jamais.
J'ai des dates d'expédition très précises, semaine par semaine, et je dois les respecter à la lettre. C'est ce que je fais, et si je venais à faillir, l'Empire en souffrirait énormément. Les Souldames doivent faire face à des multitudes de Marat Daman.
Pardonnez-moi, honorable,
fit Tai Li en s'inclinant de nouveau.
Mais si vous pouviez faire une exception, quitte à nous donner moins...
Général de Bagnères,
coupa soudain Perrine. Une situation délicate, à l'évidence, qui l'incitait à la neutralité. Pourtant, il ne put s'empêcher de froncer les sourcils. 5 tonnes de fourche racine, il n'aurait pas juré que ça suffirait. Et voilà que Tai Li tenta de négocier une quantité moindre. Pour une fois, il s'autorisa à réfléchir très vite. Cette façon de faire, selon lui, conduisait souvent à des erreurs et à des accidents, mais il n'avait pas le choix.
« Ça n'intéressera peut-être pas l'honorable. » Mais Surot a promis un sort pire que la mort à quiconque entraverait ses plans. Je suppose que ses foudres s'abattraient sur nous deux, car elle nous a clairement ordonné de tout prendre.
Il va de soi que l'honorable échappera à l'ire de la haute dame,
fit Tai Li, en indiquant bien qu'elle n'aurait pas mis sa tête à couper là-dessus. L'honorable respira un peu plus fort, comme en témoigna l'ovale bleu de sa robe. Puis elle s'inclina très profondément devant Perrine.
Il me faudra la journée, ou presque, pour trouver assez de charrettes et les faire charger. « Ça vous conviendra, seigneur ?»«
Il faudra bien, »
grogna Perrine en récupérant le message de Sourotte. Envieuse, l'honorable le regarda fourrer l'incroyable document dans sa veste. Dès qu'ils furent dehors, Tali secoua la tête tout en se hissant en selle.
Traiter avec les mains inférieures est toujours délicat, parce que ces personnes ne voient rien d'inférieur en elles. Je pensais avoir affaire à quelqu'un du 4e ou du 5e rang, et ça aurait déjà été dur. Quand j'ai vu que l'honorable appartenait au 3e, deux niveaux seulement au-dessous du niveau d'une main de l'impératrice, puisse-t-elle vivre éternellement. J'ai estimé qu'on n'obtiendrait pas plus de quelques centaines de livres. Tu as été formidable. Un gros risque, mais il n'y a vu que du feu.
Personne ne veut braver la mort,
dit Perrine, alors que Tylee et lui sortaient de la fabrique, leur petit monde à la traîne. À présent, ils allaient devoir attendre les charrettes. Devaient-ils se trouver une auberge? Le jeune seigneur espérait bien que non. Fasse la lumière qu'il n'ait pas besoin de passer la nuit ici.
Tu n'en avais pas conscience, dit Tylee. Mais cette femme a su que l'ombre de la mort planait sur elle dès qu'elle a lu le message de Sourate. Pour le bien de l'Empire, elle était prête à prendre ce risque. En plaidant le devoir accompli, une main inférieure du 3e rang est assez huppée pour échapper à la mort. Mais tu as prononcé le nom de Sourate. Sauf face à la haute dame elle-même, ce n'est pas un outrage. Mais devant une main inférieure, utiliser le nom sans le titre te classait soit comme un ignorant de ce continent, soit comme un intime de la haute dame. La lumière en soit louée, l'honorable a opté pour la seconde solution.
Perrine eut un rire sans joie. C'est fichu, c'est anchanien. Et les tavernes, peut-être aussi.
Si la question n'est pas offensante, reprit Tylee. La haute dame t'a-t-elle seulement apporté d'influentes relations, ou t'a-t-elle aussi alloué des terres?
Stupéfié, Perrine se tourna sur sa selle pour dévisager la Séanchanienne. À cet instant, quelque chose percuta violemment sa poitrine, y creusa un sillon brûlant, puis acheva sa course dans son bras. Derrière lui, un cheval hennit de douleur. Sous le choc, Perrine baissa les yeux sur la flèche plantée dans son bras gauche.
« Mishima !» cria Tylee. « Le bâtiment a 4 niveaux. Celui qui a un toit de chaume, entre 2 toits d'ardoise. J'ai vu des mouvements. »
Ordonnant à 6 hommes de le suivre, Mishima galopa en direction de l'objectif indiqué par sa supérieure. Devant les cavaliers, certains badauds s'écartèrent vivement et d'autres écarquillèrent les yeux. Dans la rue, personne ne semblait avoir vu ce qui se passait. 2 soldats séanchaniens avaient mis pied à terre pour s'occuper d'une de leurs montures au flanc percé d'un projectile. Sur sa veste, Perrine toucha du bout d'un index un bouton brisé qui ne tenait plus que par un fil. Sur toute la largeur de son torse, la soie était déchirée. Du sang ruisselait, empoissant sa chemise, et sa manche gauche n'était plus verte, mais rouge. S'il ne s'était pas tourné à cet instant précis, la flèche lui aurait traversé le cœur. L'autre l'aurait peut-être touché aussi, mais pour l'archer, ce n'aurait été qu'un bonus. Une flèche de 2 rivières n'aurait pas été déviée si aisément. Dès que le jeune seigneur eut mis pied à terre, des partisans de Fail l'entourèrent et tentèrent de l'aider, alors qu'il n'en avait pas besoin. Il dégaina son couteau, mais Kamaï le lui prit et entama la hampe suffisamment pour pouvoir la casser en ne laissant qu'un court morceau dépasser du bras blessé. À cause de la douleur, Perrine dut serrer les dents. Kamaï ne parut pas gêné d'avoir du sang sur les doigts. Sortant de sous sa manche un mouchoir bordé de dentelle, d'un vert très clair pour une kyrgyénienne, elle s'essuya la main, puis examina la hampe qu'elle venait de casser pour vérifier qu'il n'y avait pas d'écharde. Tylee sauta à terre, l'air troublé.
Seigneur, tu as été blessé et mes yeux s'en baissent de honte. On m'avait prévenu que la criminalité augmente. Incendie, voleur qui tue sans nécessité, assassinat sans motif sérieux. J'aurais dû te protéger davantage.
Serre les dents, Seigneur,
dit Barmanès en attachant une lanière de cuir à la hampe, juste au-dessus de la tête de la flèche.
Tu es prêt?
Perrine hocha la tête. Tirant très fort, Barmanès délogea la pointe de fer du bras de son seigneur, qui en grogna de douleur.
« Tes yeux ne sont pas baissés !»
croassa Perrine. Quoi qu'elle ait pu signifier, la tirade de Tylee n'augurait rien de bon.
« Personne ne t'a demandé de me garder dans du coton, et certainement pas moi !»
Néald approchait déjà, les mains levées, mais le jeune seigneur lui fit signe de reculer.
« Pas ici, des gens pourraient te voir !»
Les passants avaient enfin compris ce qui était arrivé. En murmurant, ils écarquillaient les yeux pour mieux observer la scène.
Il peut me guérir si bien qu'on ne verra plus que j'étais blessé,
expliqua Perrine à Tylee. En guise d'illustration, il plia le bras et grimaça de douleur. Une très mauvaise idée, ça.
Tu le laisserais utiliser le pouvoir sur toi?
S'écria Tylee, incrédule.
Pour me débarrasser d'un trou dans le bras et d'une entaille sur la poitrine?
10 fois plutôt qu'une. D'ailleurs, ce sera fait dès que nous serons à l'abri des regards. Tu ne voudrais pas à ma place?
Tylee fit de nouveau son étrange geste. Dès qu'il pourrait, Perrine demanderait ce que ça signifiait. Mishima revint, son cheval tenu par la bride.
Deux archers sont tombés de ce toit, annonça-t-il très grave. Mais ils ne sont pas morts de leur chute. Le choc a été terrible. Pourtant, il n'y avait pas de sang sur les pavés. En voyant qu'ils t'avaient raté, ils ont dû absorber du poison.
Ça n'a aucun sens, marmonna Perrine.
Si des hommes se tuent plutôt que de devoir rapporter un échec, dit Tali, c'est que tu t'es fait un ennemi puissant.
Un ennemi puissant? Massema aurait été ravi de le voir mort, mais il n'aurait pas pu le frapper ici.
Tous mes ennemis sont très loin, et ils ignorent où je me trouve.
Tai Li et Mishima voulurent bien croire qu'ils savaient ce qu'ils disaient, mais ils demeurèrent dubitatifs. Bien entendu, il y avait comme toujours les rejetés. Certains avaient tenté d'avoir sa peau, d'autres préférant essayer de le manipuler. Mais ils n'allaient pas les impliquer devant les Seanchaniens. Pour commencer, son bras lui faisait un mal de chien, et son torse aussi.
« Trouvons une auberge où je louerai une chambre. »
51 nœuds. Combien devrait-il en faire encore ?